Alors, la Sainte Vierge est apparue à Pellevoisin en 1876. Mais je vais vous dire d'abord quelques petits mots sur Estelle, qui est la voyante. Alors, Estelle est née en 1843 dans un petit faubourg de Chalon-sur-Marne, d'une famille assez pauvre. Son père était aubergiste, mais il est tombé en faillite, puis après il est tombé malade. Et Estelle a dû entrer en apprentissage à 14 ans. Et elle est allée aussi chez les sœurs de Saint-Vincent de Paul, le dimanche du moins, pour aller au patronage, et elle rendait des visites aux malades. Elle est entrée aussi dans l'association des enfants de Marie à cet âge-là. À 17 ans, elle entre religieuse. Religieuse chez les sœurs Augustines à l'Hôtel-Dieu de Paris. Mais à 20 ans, elle tombe lourdement dans l'escalier, elle se fracture la jambe et Estelle ne peut plus continuer la vie religieuse. Et puis aussi, il y a la situation de sa famille. La famille est vraiment très pauvre. En plus, elle doit accueillir une petite nièce, une nièce, fille de sa sœur aînée, parce que la sœur aînée vient de mourir. Et le père maltraitait la maman, donc la nièce est hébergée chez Estelle, qui a réussi à trouver du travail par une sœur de Saint-Vincent de Paul qui l'a confiée à la comtesse de La Rochefoucauld. Et elle est chargée de veiller à l'éducation des enfants. La comtesse de La Rochefoucauld, elle a aussi un château. Elle a un château pas loin de Pellevoisin, à 3 km de Pellevoisin, et la famille La Rochefoucauld a construit dans son parc une grotte imitant la grotte de Lourdes. Et souvent, donc, la famille de La Rochefoucauld, donc avec Estelle qui travaille pour elle, eh bien, vient à Pellevoisin. Pellevoisin, c'est dans le Berry. Voilà qu'à 32 ans, Estelle tombe très gravement malade, une péritonite aiguë, doublée d'une tuberculose. Et là, les médecins sont vraiment très alarmistes. Alors, Estelle, en septembre de cette année 1875, décide d'écrire une petite lettre à la Vierge Marie. Elle est dans sa chambre à Pellevoisin. Elle ne peut même pas se déplacer, donc elle va confier sa petite lettre à l'institutrice. L'institutrice va alors déposer la lettre dans le creux du rocher de la grotte de Lourdes. En décembre, là, la situation est catastrophique. Estelle est vraiment sur le point de mourir et on lui dit qu'elle n'en a plus que pour quelques jours. Et voilà que Estelle est révoltée. Du moins, elle oscille entre la révolte et puis essaye de se résigner, mais elle n'y arrive pas. C'est pas possible que la Sainte Vierge Marie ne réponde pas à sa demande. C'est pas possible que elle laisse sa famille qui a tant besoin d'elle, son père, sa mère, sa nièce. C'est surtout ça qui lui fait le plus de peine. Elle a trois crises en décembre et elle va recevoir le sacrement qu'on disait à l'époque le sacrement des malades, le sacrement de l'extrême onction. Et c'était vraiment l'extrême onction dans son cas. Et voilà qu'elle trouve du courage pour dire le oui à Dieu, à la volonté de Dieu. Elle passe de la révolte à une forme d'abandon, de résignation, de patience, et elle comprend bien qu'elle le doit à l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie. Et elle survit, contrairement au diagnostic des malades. Mais elle est encore très, très malade. Et dans la nuit du 14 au 15 février 1876, du lundi au mardi, voilà ce que dit Estelle. Je ne sais pas trop ce que j'éprouvais. Si c'est du sommeil, je n'en sais rien. Je cherchais à me reposer. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'à ce moment-là, Estelle est sur le point de mourir. Et voilà que le diable apparaît. dans sa chambre, gesticulant, avec sa face horrible, dit-elle. Et aussitôt, l'admirable apparition de la Vierge. Et la Vierge dit sur un ton sec à Satan, « Que fais-tu ? Ne vois-tu pas qu'elle porte ma livrée et celle de mon fils ?» De quelle livrée s'agit-il ? Elle avait été reçue dans l'Association des enfants de Marie, je vous disais, à 14 ans, et elle avait revêtu le scapulaire. Et la livrée de son fils, bien sûr, c'est le baptême. Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ, vous tous qui avez été baptisés dans le Christ. Et la première qui a revêtu le Christ, c'est la très sainte Vierge Marie, elle qui a été vraiment baptisée dans la mort-résurrection de son fils. Et toutes les 15 apparitions, 15 comme les 15 mystères du rosaire à l'époque, les 15 apparitions vont être marquées par ce mystère pascal. La Vierge est toute de blanc vêtue, elle le sera toujours dans toutes ces 15 apparitions. Le blanc, signe de la victoire du ressuscité. Elle porte aussi un voile à trois plis, qui rappelle la Trinité. Et la chambre dans laquelle le diable a fait irruption, est-ce que ce n'est pas là, symboliquement bien sûr, mais la chambre nuptiale de l'âme épouse qui est appelée à recevoir l'époux divin qui n'a qu'un seul but, l'introduire au sein de la Trinité. Après un temps de silence, la très sainte Vierge Marie dit à Estelle, et le diable est parti en gesticulant. Elle dit à Estelle, mais ne crains pas, tu sais bien que tu es mon enfant. Courage, patience. Courage, mais je veux que tu tiennes tes promesses. Alors de quoi s'agissait-il ? C'est que dans sa petite lettre, Estelle avait dit, vous savez bien que je suis votre enfant. Et elle lui avait dit aussi, si je guéris, eh bien je promets de publier votre gloire. Et donc la Vierge Marie lui dit, si tu guéris, n'oublie pas de tenir tes promesses. Mais elle ne lui promet pas encore la guérison. Elle lui dit au contraire, dans 5 jours, tu seras morte ou guérie. On ne peut pas dire que la très sainte Vierge Marie ménage sa fille. Mais c'est une question de vie ou de mort. Et là, on va jouer sur les deux plans, non seulement la vie physique, mais aussi la vie spirituelle. Et pourquoi 5 jours ? La Sainte Vierge le dira plus tard, c'est pour honorer les 5 plaies du Christ. Et Estelle voit alors, entre elle et la Vierge Marie, une plaque blanche. Et elle reconnaît tout de suite cette plaque comme étant un ex-voto. Alors elle dit à la très sainte Vierge, « Mais ma bonne mère, où devrais-je la poser ? Devrais-je la poser à Paris, à Notre-Dame des Victoires, ou bien à Pellevoix ?»« Oh, je n'ai pas eu le temps de terminer le mot pellevoisin, » dit Estelle. La Vierge me dit, « Oh, à Pellevoisin, à Notre-Dame des Victoires, ils ont assez de marques de ma puissance. » Tandis qu'ici, ils n'ont rien. Ils ont besoin de stimulants. La Vierge reste un long temps, en silence. Estelle est un petit peu déconcertée par cette apparition silencieuse, mais elle dit, je tremblais, mais comme j'étais heureuse. Puis, la Vierge lui dit, courage, et elle lui rappelle ses promesses. Puis, tout disparaît. Et Estelle ne voit plus rien du reste de la nuit. Les lieux de dévotion mariale sont donc des stimulants. Et ce village, jusqu'ici inconnu, est devenu vraiment un lieu choisi par la Vierge, où Dieu se révèle dans ce qu'il y a de petit, de pauvre, se révèle sans bruit, caché au cœur du monde, comme autrefois à Nazareth. Deuxième apparition, nuit du mardi 15 au mercredi 16 février 1876. Le récit d'Estelle. La seconde nuit, je revis le diable et je reprenais la peur. Il se tenait déjà plus loin. La Sainte Vierge parut presque aussitôt et elle me dit, n'aie donc pas peur, je suis là. Cette fois, mon fils s'est laissé toucher. Samedi, tu seras guéri. il te rend la vie. Alors aussitôt, j'ai dit, oh, ma bonne mère, si j'avais à choisir, maintenant j'aimerais mieux mourir, maintenant que je suis bien préparée. Alors la Sainte Vierge a souri et elle lui a dit, ingrate, mais s'il te rend la vie, c'est que tu en as besoin. Qu'a-t-il donné à l'homme sur la terre de plus précieux que la vie? S'il te rend la vie, ne crois pas que tu seras exempte de peine. Non, tu souffriras, tu auras des peines. Mais c'est ce qui fait le mérite de la vie. Si mon fils te laisse la vie, c'est parce qu'il s'est laissé attendrir par ta résignation. Ne perds pas le fruit par ton choix. Ne t'ai-je pas dit, s'il te rend la vie, tu publieras ma gloire. Le marbre blanc était présent. Et à côté, il y avait beaucoup de feuillets de papier de soie. Autant qu'il y avait d'épaisseur de marbre, et ça en faisait une grande quantité. Je cherchais à en soulever quelques-uns, dit Estelle, mais je n'ai pas pu. La Vierge m'a regardée et elle a souri. Puis après, la Vierge est restée en silence. Elle devint un peu triste et lui dit, « Maintenant, regardons le passé. » Je suis encore confuse des fautes que j'ai commises qui, à mes yeux, étaient des fautes légères. Je garde le silence sur ce que la Sainte Vierge m'a dit. Je dirai seulement qu'elle me fit de graves reproches que j'avais bien mérités. J'aurais voulu crier pardon, mais je ne pouvais pas. Ma peine était grande. J'étais stupéfaite. La Sainte Vierge m'a regardée avec bonté. Puis, elle est partie sans rien me dire. Combien j'avais de chagrin. Ici, Estelle reçoit une grâce d'illumination intérieure. Oh, elle connaissait bien un peu son fond de péché, parce que dans sa petite lettre, elle avait dit à la Sainte Vierge Marie, « Si vous ne pouvez pas m'obtenir la guérison à cause de mon état de péché, au moins donnez-moi assez de force pour que je puisse aider ma famille. » Mais elle n'en avait pas conscience à ce point. Là, elle a eu une grâce d'illumination de la conscience qui la bouleverse complètement. Et elle est stupéfaite de voir son état de péché à ce point. Mais le Christ a bien dit, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venue appeler les justes, mais les pécheurs. Et pour être soigné, il faut encore savoir le degré de sa maladie. Sa maladie physique, elle en avait bien conscience qu'elle était grave, mais sa maladie spirituelle, pas à ce point-là. À l'aveugle nez, Jésus a ouvert les yeux, tandis que ceux qui croyaient voir sont bien restés dans leur cécité. Et il n'est pas non plus étonnant que Satan soit là, au moment où Estelle va recevoir cette grâce de lumière. Satan, c'est le prince des ténèbres. Il a introduit la mort dans le monde. Et Jésus, lui, a détruit cette mort en prenant sur lui les péchés du monde. Par sa mort, il nous laisse la vie. Et ce n'est pas seulement à Estelle qui dit « Je te laisse la vie ». Cette fois, mon fils se laisse attendrir, il te laisse la vie. C'est bien l'évangile de la vie qu'ici, il nous est rapporté. Mais cette vie, elle passe par le chemin de croix. Choisis la vie. Comment ne pas choisir la vie? Mais choisir la vie suppose de renoncer à soi-même, de prendre sa croix et de suivre Jésus comme il l'a dit. Et c'est cela qui est difficile. Choisir la vie, c'est accepter aussi de prendre la vie comme un don, et un don très précieux, comme dit la très sainte Vierge Marie. Ce temps est un temps de pèlerinage pour nous conduire à accueillir tout ce qui vient dans la vie, les peines, les joies, et à tout offrir. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Choisir la vie, c'est être dépossédé en passant par le renoncement total à sa volonté propre. Troisième apparition, nuit du mercredi 16 au jeudi 17 février. La troisième et la quatrième nuit, je revis le diable. Il se tenait si loin, c'est à peine si je pouvais distinguer ses gestes. La troisième nuit, la Sainte Vierge me dit, « Allons, Du courage, mon enfant. » À cet instant, les reproches de la veille me revinrent à l'esprit et je tremblais, je craignais. Mais la Sainte Vierge était si douce, bien qu'elle me fît de nouveaux reproches, mais avec tant de douceur que je me suis rassurée. Elle me dit, « Tout ceci, c'est du passé. Par ta résignation, tu as racheté tes fautes. » Ou elle me fit voir quelques bonnes actions que j'avais faites. C'était bien peu de choses à côté de mes fautes. La Sainte Vierge vit bien ma peine. Elle me dit, « Je suis toute miséricordieuse et maîtresse de mon fils. Ces quelques bonnes actions que tu as faites et quelques prières ferventes ont touché mon cœur de mère. Et ce qui m'a touchée en particulier, c'est cette petite lettre de septembre. Ce qui m'a le plus touchée, c'est ceci. Voyez la misère de mes parents si je venais à leur manquer. Ils sont à la veille de mendier leur pain. Rappelez-vous tout ce que vous avez souffert quand votre fils Jésus a été cloué sur la croix. J'ai présenté cette lettre à mon fils. Tes parents ont besoin de toi. À l'avenir, tâche d'être fidèle. Ne perds pas les grâces qui te sont données. Et publie ma gloire. » Dans ce récit, nous percevons les fruits de la conversion d'Estelle. Estelle déteste son péché, elle a bien conscience que ce fond de péché l'emporte sur le peu de bien qu'elle croit avoir fait. Et là, elle cherche le moyen, le remède, et le remède, c'est cette phrase extraordinaire de la Vierge Marie, « Je suis toute miséricordieuse et maîtresse de mon fils. » La miséricorde de la Vierge Marie, elle la puise dans les entrailles maternelles du cœur du Père. La vie de la Vierge Marie n'a été qu'un oui à la volonté du Père. La volonté du Père et la volonté de la Mère ne font qu'un. Et Jésus a dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » La Vierge Marie est maîtresse de son Fils. Mais à leur suite, les enfants de Dieu qui acceptent de faire sa volonté ont aussi un pouvoir sur son cœur. Pense à la petite Thérèse qui disait au ciel, il faudra que vous fassiez tout ce que je veux parce que sur la terre, je ne vous ai jamais rien refusé. Marie a été émue de compassion devant la souffrance d'Estelle. La miséricorde de Dieu a rejailli sur Marie et la miséricorde en Marie a rejailli sur Estelle. Marie, c'est vraiment le canal de grâce. Elle est l'échelle de Jacob qui fait monter nos demandes vers le ciel et descendre du ciel les pluies de grâce. Quatrième apparition, nuit du jeudi 17 au vendredi 18 février. La quatrième nuit a été à peu près de même que les autres. Je revoyais chaque nuit tout ce qu'elle m'avait dit les fois précédentes. Cette nuit-là, il m'a semblé qu'elle resta un peu moins longtemps. Je voulais pourtant lui demander des grâces, mais mes pensées se précipitaient. Je voyais bien dans mon esprit les paroles que la Sainte Vierge m'avait répétées. « Ne crains rien. Tu es ma fille. Mon fils est touché de ta résignation. Ses reproches de mes fautes et son pardon quand elle m'a dit « Je suis toute miséricordieuse et maîtresse de mon fils. » Et ces mots, courage, patience, résignation, tu souffriras. Tu ne seras pas exempte de peine. Tâche d'être fidèle. Je veux que tu publies ma gloire. Tout ceci et beaucoup d'autres choses passaient si vite. Je ne puis m'expliquer comment. Je voyais pourtant très bien et j'entendais pareillement. Pourquoi ? Pendant que la Sainte Vierge était là qui me regardait, elle qui est si bonne et si douce, n'ai-je pu rien lui demander ? Elle est partie, comme les autres fois, en me répétant « Tu publieras ma gloire ». J'essayais encore de dire « Mais comment ?» je n'en ai pas eu le temps, la Sainte Vierge est partie en me disant « Fais tous tes efforts ». En cette quatrième apparition, Marie apprend à sa fille à méditer dans son cœur les paroles qu'elle a reçues. C'est ce que Marie a fait toute sa vie. Elle méditait la parole de Dieu dans son cœur. Ici, Estelle se souvient de toutes les paroles précédentes. Elle va rendre actuelles les paroles qui lui ont été données. C'est une sorte d'anamnèse à laquelle la Vierge Marie conduit sa fille pour qu'elle intériorise ses paroles. Cinquième apparition, nuit du vendredi 28 au 18, pardon, au samedi 19 février 1876. La cinquième nuit, du vendredi au samedi, n'a pas été tout à fait de même. La Sainte Vierge ne resta pas au pied du lit. Elle s'approcha au milieu de mes rideaux. Mon Dieu, comme elle était belle! Elle resta longtemps immobile, sans rien dire. Elle se tenait au milieu d'une vapeur claire. Pourquoi, si ce n'est qu'un rêve, ne dure-t-il pas toujours? Après ce silence, elle me regarda. Je ne sais pas ce que j'éprouvais, mais comme j'étais heureuse. Elle était souriante et elle me rappela mes promesses. Je voyais ma plaque, mais elle n'était plus tout à fait blanche. Il y avait aux quatre coins quatre petits boutons de rose d'or. Et en haut, un cœur d'or enflammé avec une couronne de roses traversée d'un glaive. Et voici ce qu'il y a décrit. J'ai invoqué Marie au plus fort de ma misère. Elle m'a obtenu de son fils ma guérison entière. Je lui ai promis de nouveau de faire tout ce qui dépendrait de moi pour sa gloire. Elle me dit, si tu veux me servir, sois simple et que des actions répondent à tes paroles. Oh, je lui ai demandé si je devais changer de position. Elle m'a répondu, on peut se sauver dans toutes les conditions. Où tu es, tu peux faire beaucoup de bien. Tu peux publier ma gloire. Après un petit instant, elle devint triste et elle me dit « Ce qui m'afflige le plus, c'est le manque de respect qu'on a pour mon fils dans la communion. Et l'attitude de prière qu'on prend alors que l'esprit est occupé d'autre chose. » Après, elle reprit son sourire. Alors je lui dis « Mais est-ce que je dois dire, écrire tout cela ?» Et la Sainte Vierge Marie me dit « Oui, oui, publie ma gloire, où il y aura bien des contradictions. Mais avant d'en parler, tu attendras l'avis de ton confesseur. On te traitera de visionnaire, d'exalté, de folle. Ne fais pas attention à tout cela. Sois fidèle, je t'aiderai. » Je regardais toujours. Mes yeux étaient fixés sur elle. Et puis, tout doucement, la Sainte Vierge s'éloignait. Je n'ai jamais rien vu de si beau. Petit à petit, elle s'éloignait. Il ne restait plus que la douce clarté qui était autour d'elle, et puis tout disparut. À ce moment-là, je souffrais horriblement. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait sortir de ma poitrine, et mon estomac et mon ventre me faisaient aussi beaucoup souffrir. Je me souviens très bien que je tenais mon chapelet dans la main gauche. Je ne pouvais pas soulever la droite. J'ai offert mes souffrances au bon Dieu, mais je ne savais pas que c'était les dernières de cette maladie-là. Après un moment de repos, je me sentis bien. J'ai demandé l'heure. Il était 00h30. Je me sentais guérie, excepté de mon bras dont je n'ai pu me servir qu'après avoir reçu le bon Dieu. Oh, combien de grâces j'ai à rendre à cette bonne mère du ciel. Mon cœur ne pourra jamais assez vous remercier. Suppléez vous-même à ce qui me manque. Cette apparition a eu lieu donc dans la nuit du vendredi au samedi. C'est tout un symbole, bien sûr. Elle va vivre vraiment son vendredi saint, Estelle. L'Estelle a déjà fait des progrès. On le voit, la Vierge ne reste pas au pied du lit, elle s'approche au milieu des rideaux. La Vierge est entrée dans l'intimité d'Estelle parce que Estelle lui a ouvert son cœur. Surtout est symbolique dans cette apparition qui a eu lieu réellement, mais tout est à interpréter aussi à une double lecture. Et là, Estelle est décontenancée par cette expérience. La Vierge reste longtemps en silence. Et à toutes les apparitions, elle gardera de longs temps de silence. Elle l'introduit vraiment dans une grâce d'intériorité. Elle est décontenancée, mais en même temps, elle goûte quelque chose de la joie du ciel et elle est débordante de joie. Tout se passe dans un silence contemplatif. Estelle revoit sa plaque. Mais la plaque blanche, qui signifiait la résurrection, là encore, elle est avec des petits boutons d'or aux quatre coins, des boutons de rose d'or. C'est le renouvellement dans la grâce du baptême. Et déjà, chez Estelle, elle porte du fruit. C'est ces petits boutons de rose. Au milieu, il y a le cœur d'or. La Vierge en Belgique, dans une apparition ultérieurement, apparaîtra, je crois que c'est à Banneux, avec le cœur d'or. C'est le cœur brûlant de charité, son cœur maternel, les entrailles de la mère. Mais il est entouré d'une guirlande de roses. Les roses, bien sûr, vont rappeler ici le rosaire. Mais le cœur est transpercé d'un glaive, comme dans la prophétie de Siméon. Toi-même, un glaive te transpercera le cœur. À la croix, Marie vit une maternité douloureuse. C'est l'enfantement des enfants, l'enfantement de l'Église. Et là, elle voit inscrite sur la plaque « J'ai invoqué Marie au plus fort de ma misère. Elle a obtenu de son fils ma guérison entière. » C'est bien le fils qui guérit, ce n'est pas la mère, mais par l'intercession de Marie, médiatrice. Estelle se demande si elle doit changer de position. Elle avait fait un essai de vie religieuse. Elle se demande si, puisqu'elle va être guérie, mais encore, la Vierge Marie lui demande un acte de foi, parce que quand elle lit ça sur l'inscription, qu'elle a obtenu ma guérison entière, à ce moment-là, elle est sur le point de mourir. C'est là qu'elle souffre le plus horriblement. Donc elle fait cet acte de foi, cet acte d'abandon. Elle sait que la Vierge va obtenir sa guérison et elle se demande si elle ne doit pas redevenir religieuse. Et la Vierge ne lui donne pas de réponse à cela. Elle dit simplement que dans toutes les conditions, dans tout état de vie, on peut se sanctifier. Où tu es, tu peux faire beaucoup de bien. Où tu es, tu peux publier ma gloire. Ça, c'est aussi à chacun de nous, bien sûr, qu'elle le dit. Et puis la Vierge devient un peu triste. C'est tous les outrages vis-à-vis de la Sainte Communion en particulier. Et puisqu'elle dit à Estelle, si tu veux me servir, sois simple et que des actions répondent à tes paroles. Ce qui est ici mis en évidence par la Vierge Marie, c'est la duplicité, le contraire de la simplicité. Et le Christ lui-même avait dit, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Et plus particulièrement, elle vise les âmes prétendument religieuses, la Vierge Marie. Ce qui m'afflige le plus, c'est l'attitude de prière qu'on prend alors que l'esprit est occupé d'autre chose, dit la très sainte Vierge Marie. Quelquefois, effectivement, notre cœur est occupé par des soucis divers et Dieu n'est pas à la première place. Et on va recevoir la communion dans cet état-là, où c'est un geste un peu machinal. Et c'est ce qui rend triste la Vierge. Puis après, elle devient souriante. Elle se dit, mais est-ce qu'il faut que je dise ça? Et la Vierge Marie dit, oui, et elle le dit avec insistance. Publie ma gloire. Donc, en même temps, c'est vraiment un avertissement qu'elle adresse aux âmes qui se prétendent être religieuses parce qu'elles ont une pratique religieuse, mais qui ne correspond pas à un état intérieur profond. Après cela, la Vierge lui dit qu'elle aura des difficultés, des contrariétés. Et en particulier, sous-entendu peut-être même par l'Église, puisqu'elle dit « Parle-en à ton confesseur et à ton directeur avant de publier ceci. » Ça veut dire que la Vierge Marie se soumet elle-même à l'Église. Elle, la Reine du Ciel, se soumet à l'Église. Tu seras traitée de visionnaire, d'exaltée, de folle. La Vierge ne lui cache pas qu'elle aura bien des embûches en racontant le récit des apparitions. Elle dit « Sois-moi fidèle, je t'aiderai. » Estelle regarde la Vierge Marie et elle ne peut pas détacher son regard de la gloire de la Vierge Marie, de la beauté de la Vierge Marie. Et puis, tout doucement, avec délicatesse, la Vierge s'éloigne. Il ne reste plus que la buée, la vapeur claire, qui peut signifier aussi la sagesse de la très sainte Vierge Marie. Et alors à ce moment-là, au moment où la Sainte Vierge disparaît, Estelle éprouve les plus grandes souffrances de sa maladie, des souffrances terribles. Et elle a cet abandon total. J'offris toutes mes souffrances au bon Dieu, dira-t-elle. Elle lui fait confiance, elle est guérie, elle se sent guérie après un temps de repos. Là, on voit vraiment qu'elle vit quelque chose du mystère pascal. Elle est passée vraiment par la croix. Elle est dans le repos, on dirait le repos du samedi. On est déjà passé au samedi, elle demande l'heure, il est déjà minuit passé, il est minuit 30. Mais elle n'est pas encore entièrement guérie à son bras droit. Et c'est le lendemain qu'elle sera guérie de son bras droit, au moment où elle va recevoir la Sainte Communion. Vraiment, c'est le Christ qui guérit. Si vous mangez mon corps et buvez mon sang, vous aurez la vie, vous a dit Jésus. Sixième apparition, 1er juillet, de 22h15 à 22h30. C'est devant vous, ô mon Dieu, que je vais écrire la visite que je reçus hier de votre divine mère, malgré que je ne sois que néant et pécheresse. Que ce soit pour votre gloire. Lorsque je me suis mise en prière, mon esprit, comme toujours, s'est reporté sur le tableau que j'avais vu au mois de février. Aussitôt après, je pris un livre et ne lus que quelques lignes. Et je ne voulais pas me coucher trop tard selon la défense qui m'en avait été faite. Je ne voulais pas. Il était 22h15. J'étais à genoux devant ma cheminée quand tout à coup, je vis la Sainte Vierge, tout environnée d'une douce lumière, comme je l'ai déjà vue. Seulement cette fois, je la vis tout entière, de la tête aux pieds. Quelle beauté et quelle merveille. La Sainte Vierge était tout environnée d'une douce lumière. Son cordon de taille tombait presque jusqu'au bas de sa robe. Elle était toute blanche et se tenait debout. Ses pieds étaient bien à la hauteur du pavé. Seulement, le pavé avait l'air baissé. En la voyant d'abord, elle avait les bras étendus et de ses mains tombait comme une sorte de pluie. Elle fixait quelque chose. Puis ensuite, elle prit un de ses cordons, elle porta à sa poitrine et elle croisa les mains. Elle souriait, puis elle me dit, en me regardant, « Du calme, mon enfant, patience. Tu auras des peines, mais je suis là. » Le cordon qu'elle tenait retomba, et il glissa bien près de moi. Je n'ai rien dit, Je ne pouvais pas parler. J'étais bien heureuse, voilà tout. La Sainte Vierge resta encore quelques instants, puis elle me dit « Courage, je reviendrai. » Ensuite, elle disparut tout doucement, en s'éloignant lentement, de même qu'au mois de février. Que n'ai-je pu vous suivre, ma bonne mère? Mais vous reviendrez. Donc écrit le 2 juillet dans l'église après l'action de grâce d'Estelle. À la cinquième apparition, Marie s'était approchée d'Estelle, mais Estelle ne l'avait pas vue entièrement. Et là, Estelle a encore progressé, elle voit complètement la Vierge Marie, de la tête aux pieds. Et deux signes vont nous être donnés. Le premier, c'est les pieds à la hauteur du pavé et le pavé qui semble fléchir. Le deuxième, c'est le cordon de taille. Alors, le premier signe, celui des pieds, à la hauteur du pavé, qui semble se fléchir, est-ce que ce n'est pas le poids de la gloire? Vous rappelez qu'à Lourdes, Bernadette avait du mal à être soulevée, même par des personnes fortes, tant elle était investie du poids de la gloire qu'elle contemplait. Là, la gloire a un poids. Saint Augustin, dans ses confessions, dit au milieu de ses confessions, « Tu allèges celui que tu remplis, mais n'étant pas rempli de toi. J'étais un poids pour moi-même. » Mais à la fin des confessions, Saint Augustin parle de la gloire comme un poids d'amour, un poids qui élève vers le ciel. Alors que le poids du péché, bien sûr, nous entraîne dans les abîmes. Le deuxième signe, c'est le cordon ramené par la Vierge sur sa poitrine, qui nous renvoie ici à une vision de Jérémie, de Jérémie 13, 11. Dieu dit à Jérémie, va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la autour de ta taille. Jérémie achète une ceinture, la met autour de sa taille, puis au bout d'un temps, Dieu lui dit, enlève la ceinture, va à l'Euphrate et tu déposeras la ceinture dans le creux du rocher. Et puis il se passe un long temps. Et au bout d'un très long temps, Dieu dit à Jérémie, va rechercher la ceinture. Et évidemment, la ceinture, elle était toute pourrie. Alors c'était un signe. Dieu dit, ainsi, je me suis attaché mon peuple comme un homme s'attache une ceinture à ses reins. Mais le peuple est resté infidèle. Et voilà ce qui est arrivé. Ce peuple est devenu comme cette ceinture. Ce peuple est devenu pourri, inutilisable comme la ceinture. C'était le peuple de la première alliance qui avait reçu le don de la loi. Le don de la loi marque bien la direction, mais l'homme n'est pas capable de lui-même d'en vivre, l'homme marqué par le péché. Le peuple de la nouvelle alliance, représenté ici par le cordon tenu à la taille de la Vierge Marie, le peuple de la nouvelle alliance, lui, c'est le peuple de la grâce qui a été racheté par le corps et le sang du Christ. Ce peuple-là, vivant de la grâce, peut aussi vivre de la loi. Il est porté, en particulier porté, dans le sein de la Vierge Marie. Le cordon retombe, dit Estelle, et il glisse bien près d'elle. Là, c'est vraiment le symbole de toutes les épreuves. Parfois, dans les épreuves, le découragement peut nous saisir. On n'est plus dans les effusions des grâces sensibles où la prière semble facile. Mais il s'agit toujours de nous rappeler, lorsque le cordon retombe, qu'il reste attaché à la ceinture. Et qu'en nous retentissent alors ces mots de la Vierge qu'elle a donnés à Estelle, courage, patience. Septième apparition, dimanche 2 juillet, fête de la Visitation, de 23h30 à 24h30. Le récit d'Estelle, elle l'écrit à 1h du matin. Puisque je dois publier votre gloire, ma bonne mère, je vais par obéissance raconter votre visite de cette nuit. Je me suis couchée à 22h30 et il m'en a coûté de me coucher parce que j'avais vu la Vierge à cette heure-là, la nuit précédente. Enfin, vers 23h30, je me suis complètement réveillée. Je me suis levée pour voir l'heure et je me suis un peu habillée. Je croyais avoir dormi beaucoup plus longtemps. Voyant qu'il n'était que 7h, J'avais l'espoir de voir la Sainte Vierge avant minuit. Je me suis mise à genoux et j'ai récité la moitié d'un « Je vous salue Marie ». Je n'ai pas pu aller plus loin, la Sainte Vierge était là, devant moi. Je n'ai pu achever. J'étais trop heureuse. Elle était de même qu'hier. La pluie tombait de ses mains. Et dans le fond clair qui l'environnait, il y avait une guirlande de roses. Elle resta quelque temps ainsi, puis elle croisa les mains sur la poitrine et ses yeux étaient sur moi. Tu as déjà publié ma gloire. Puis elle me confia quelque chose que je dois garder secret. Puis elle me dit, continue. Mon fils a aussi quelques âmes plus attachées. Son cœur a tant d'amour pour le mien qu'il ne peut refuser mes grâces, mes demandes, par moi. Il touchera les cœurs, même les plus endurcis. Ou à ce moment-là, comme elle était belle. J'ai pu lui demander quelque chose. Les papiers que j'avais vus dans la nuit du 15 au 16 février me revinrent à la mémoire. Je lui dis, mais ma bonne mère, que devrais-je faire de ces feuillets? Elle me dit, ils serviront à publier mes récits, comme l'ont jugé plusieurs de mes serviteurs. Oh, il y aura bien des contradictions. Ne crains rien, sois calme. Après cela, je voulais lui demander encore autre chose, c'est-à-dire une marque de sa puissance. Mais cela m'embarrassait, je ne savais pas trop comment lui dire. Cependant, je lui dis, oh, ma bonne mère, pour votre gloire, s'il vous plaît. Elle me comprit et elle me dit en souriant, est-ce que ta guérison n'est pas une des plus grandes preuves de ma puissance? Je suis venue particulièrement pour la guérison des pécheurs. Et comme, pendant qu'elle parlait, je pensais à différentes manières dont la Sainte Vierge pourrait faire éclater sa puissance, elle me répondit, « On verra plus tard. » Puis elle resta encore un bon moment, et tout doucement, elle s'éloignait. La guirlande de roses resta après elle, puis la clarté semblait s'éteindre tout doucement. Je suis restée encore un petit instant à genoux, puis je me suis recouchée. Il était 00h30 et je n'ai pas dormi ou dormi peu le reste de la nuit. Ce n'est que par obéissance que j'écris ces lignes. Tout pour votre gloire, ma bonne mère. Merci de vos faveurs. Puisse votre divin fils être aussi touché des quelques efforts que j'ai pu faire pour votre gloire. Estelle s'est endormie vers 22h30, de 22h30 à 23h30. Elle avait l'espoir de revoir la Vierge Marie, elle l'avait vue à cette heure-là, la nuit précédente. On est le 2 juillet, et à l'époque, au 2 juillet, on fête la fête de la Visitation. Et à la Visitation, il y a une véritable effusion de l'esprit. Marie porte l'enfant dans son sein, et Jean-Baptiste tressaille de joie sous l'action de l'Esprit-Saint. Élisabeth prophétise aussi sous l'action de l'Esprit-Saint. Il se produit une véritable effusion de l'Esprit-Saint. Et là, cette effusion de l'Esprit-Saint est signifiée par la pluie qui tombe des mains de la Vierge. Marie, c'est vraiment le tabernacle vivant qui a porté dans son cœur le temple de Dieu, Jésus qui s'est fait chair. Ézéchiel, dans sa vision 45-47, a vu du côté droit du temple l'eau jaillir, déborder, féconder la terre. Et Jésus avait dit avant sa passion à la fête des tentes, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et la première qui a cru, c'est la Vierge Marie. Elle a été inondée du don de l'Esprit Saint. Elle est une âme de désir par excellence. Et à la fête des tentes a eu lieu aussi la transfiguration qui nous indique le terme de la vie spirituelle. voir Dieu, la vision de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu, disait saint Irénée. Et la Vierge Marie, c'est vraiment cette Jérusalem céleste qui est irriguée par le fleuve aux eaux limpides qui coule du trône et de l'agneau. Et Estelle remarquait, à propos de la guirlande de roses, que la guirlande de roses avait l'air d'être constituée de roses fraîchement arrosées, toutes fraîches. Est-ce que cette guirlande de roses, qui bien sûr renvoie au rosaire, mais est-ce que les roses ne représentent pas aussi les âmes mariales irriguées par la grâce du Saint-Esprit? La Vierge croise les mains sur sa poitrine, donc elle porte vraiment les enfants sur son cœur, et elle fixe les yeux sur Estelle. Et là, elle lui dit qu'elle a publié déjà sa gloire. Bon, parce qu'elle avait accepté de se laisser guérir physiquement, lui dit continue, parce qu'il reste aussi la conversion. La conversion, elle n'est pas encore, la guérison spirituelle n'est pas encore pleinement obtenue. Et la Vierge a cette phrase assez extraordinaire. Elle dit « Mon fils a aussi quelques âmes plus attachées ». Bien sûr, il n'y a pas d'opposition entre les âmes christiques et les âmes mariales, puisque la Vierge Marie conduit toujours au Christ, hein, et que les âmes qui vont plus rapidement au Christ sans passer par la Vierge Marie sont quand même conduites par la Vierge Marie, qu'elle le sache ou non. Les deux cœurs du fils et de la mère ne font qu'un. Et le fils a tant d'amour pour sa mère qu'il ne peut rien lui refuser. Par moi, il touchera les cœurs les plus endurcis. C'est très encourageant. Et c'est à ce moment-là qu'elle est le plus belle. Jamais, elle l'avait pas encore vue aussi belle que là, comme elle était belle quand elle disait cela. Ce qui accroît encore la beauté de la Vierge, c'est vraiment la conversion des cœurs, que nous passions de l'homme charnel à l'homme spirituel. Huitième apparition, lundi 3 juillet. Je vis de nouveau la Sainte Vierge. Elle était de même que l'autre nuit. Elle resta seulement quelques minutes et me dit, sur le ton d'un tendre reproche, « Je voudrais que tu sois encore plus calme. Je ne t'ai pas fixé l'heure à laquelle j'allais venir, ni le jour. Tu as besoin de te reposer. Je ne resterai que quelques minutes. » Ouais, à ce moment-là, j'ai voulu lui exprimer mon désir, mais elle me dit tout en souriant, « Je suis venue pour terminer la fête. » Puis il resta encore quelques minutes, puis elle partit. Il était un peu moins de minuit. Estelle n'avait pas beaucoup dormi la veille. Après la visite de la Vierge, elle nous l'a dit, elle était même un peu excitée. Et la Vierge lui demande d'être calme. Ce n'est pas automatique, cette visite de la Vierge. C'est comme si Estelle voulait en quelque sorte mettre la main sur le ciel, sur la Vierge, pour que le ciel se manifeste. Donc elle lui demande ce calme intérieur. Tu lui dis, tu as besoin de te reposer, bien sûr, c'est parce qu'elle est convalescente, mais c'est aussi le repos intérieur. Elle n'est pas encore comme un petit enfant contre le sein de sa mère. Et la Vierge dit, je ne t'ai pas fixé l'heure et le jour à laquelle je reviendrai. On pense à la phrase du Christ, vous ne savez ni le jour ni l'heure à propos de son retour. Évidemment, les âmes de désir hâtent le retour du Christ, mais il y a un désir qui est selon le cœur de Dieu et un désir qui a besoin d'être purifié. Et le désir d'Estelle avait besoin d'être purifié. C'est pour ça que dans la parabole « L'époux revient à minuit », là elle note, il était un peu moins de minuit. On voit ici le symbole. C'est le désir de l'âme, le désir purifié qui hâte le retour du Christ. La Vierge ne reste que peu de temps et elle lui dit, je viens pour terminer la fête. Alors de quelle fête s'agit-il? Le lendemain, Estelle a demandé à son confesseur. Et son confesseur dit bien, hier, c'était le couronnement de la statue de la Vierge à Lourdes. Et là encore, le lien entre Lourdes et Pellevoisin est bien établi. À Lourdes, la Vierge révèle son nom, je suis l'Immaculée Conception. Et Bernadette voit vraiment la Vierge dans sa gloire. À peine voisin, la Vierge apparaît comme à Lourdes, en vêtements blancs, symbole de son Immaculée Conception. Et Estelle, ici, découvre l'Immaculée Conception, mais à travers ses entrailles maternelles. Les entrailles maternelles et miséricordieuses de Marie, toutes jaillies du cœur du Père. Et du reste, elle va se dévoiler à Estelle comme Notre-Dame du Sacré-Cœur, Notre-Dame de Miséricorde. Neuvième apparition, samedi 9 septembre vers 14h45. Puisque vous demandez que je publie votre gloire, ma bonne mère, c'est donc uniquement pour vous plaire que je vais écrire ces paroles. Depuis plusieurs jours, j'avais le désir d'aller dans la chambre où je fus guérie. Enfin, aujourd'hui, 9 septembre, j'ai pu m'y rendre. Je finissais de dire mon chapelet quand la Sainte Vierge est venue. Elle était comme le 1er juillet. Elle regarda partout, sans rien dire, puis elle me dit « Tu t'es privée de ma visite le 1er juillet. Tu t'es privée de ma visite le 15 août. Tu n'avais pas assez de calme. Tu as bien le caractère du Français. Il veut tout savoir avant d'apprendre et tout comprendre avant de savoir. Je serais venue aussi hier. J'attendais de toi cet acte de soumission et d'obéissance. Et à ce moment-là, j'ai très bien compris que si je ne m'étais pas soumise et si je n'avais pas obéi, je me serais privée de la voir davantage. » Puis elle s'arrêta et dit « Depuis longtemps, les trésors de mon fils sont ouverts, qu'il prie. » Et en disant cela, elle souleva la petite pièce de laine qu'elle portait sur sa poitrine. Ah, je l'avais toujours vue, cette petite pièce, sans savoir ce que c'était, parce que je l'ai toujours vue toute blanche. Et en soulevant cette petite pièce, j'aperçus un cœur rouge qui ressortait très bien. J'ai pensé de suite que c'était un scapulaire du Sacré-Cœur. Et elle dit, en le soulevant, « J'aime cette dévotion. » Elle s'arrêta encore, puis elle reprit, « C'est ici que je serai honorée. » Du 3 juillet au 9 septembre, il n'y a eu aucune visite de la Vierge Marie. La Vierge Marie l'avait laissée le 3 juillet avec cette invitation au calme. Donc sûrement qu'Estelle a fait ses efforts, mais apparemment ce n'était pas suffisant. Et le 8 septembre, elle a l'intuition, du reste elle se sentait travailler depuis plusieurs jours, que là la Vierge lui aurait apparu. Mais la Vierge, le 8 septembre, n'est pas apparue. Donc elle a été déçue. Et quand elle dit « Je me suis rendu compte que si je ne m'étais pas soumise et si je n'avais pas obéi, je me serais privée de voir la Vierge davantage », elle fait allusion à quelque chose qui s'est passé dans la nuit du 8 ou 9 septembre. C'est que comme la Vierge ne lui est pas apparue le 8 septembre, alors qu'elle pensait vraiment qu'elle allait voir la Vierge, elle avait eu la tentation, mais très forte, de quitter le château de Montbel pour aller dans sa chambre à Pellevoisin. Il y avait 3 km entre les deux. Et elle voulait de nuit, sans demander la permission, non, de partir de nuit du château jusqu'à sa chambre à Pellevoisin pour en quelque sorte forcer le ciel à se manifester. Bon, elle avait résisté à la tentation à ce moment-là. Mais par ailleurs, elle était toujours aussi impatiente. Elle avait bien le caractère du Français. Le Français, on en prend plein notre grade, là. Le Français veut tout apprendre, tout savoir avant d'apprendre et tout comprendre avant de savoir, nous dit la très Sainte Vierge Marie. C'est vrai qu'on est parfois impatient, on veut brûler les étapes. Estelle voudrait déjà être rendue au terme sans passer par les étapes douloureuses de l'apprentissage, finalement, de l'apprentissage sur le chemin du ciel. Et malgré ses efforts, elle ne réussissait pas. Et c'est là que Marie va lui donner le remède. Après s'être arrêtée, elle lui dit « Depuis longtemps, les trésors de mon fils sont ouverts. Qu'il prie. » Oui, les enfants de la Nouvelle Alliance sont les enfants de la grâce. Mais la grâce donnée à la croix, les trésors du cœur de Dieu, tous les trésors du cœur de Dieu, c'est Sainte Plaie, l'eau et le sang jaillis du côté, source des sacrements, Eh bien, ces trésors, Dieu les propose mais ne les impose pas parce que Dieu est amour, qu'il prie. Donc depuis longtemps, c'est depuis le mystère de la rédemption. Les trésors du Fils sont ouverts. Ils sont ouverts, mais il faut y puiser et pour cela prier pour recevoir ces dons du ciel. Donc la deuxième partie de l'apparition, c'est le dévoilement du cœur de Marie. Donc c'est même avant le XVIIe siècle, avant les apparitions du Sacré-Cœur à Marguerite Marie. Bien avant, dès la croix, déjà tous les trésors du cœur sont ouverts. Et la Vierge Marie soulève la petite étoffe de laine blanche pour laisser apparaître le cœur, le Sacré-Cœur, le cœur de son Fils. L'étoffe de laine blanche, la laine, nous renvoie à l'agneau immolé. L'étoffe de laine blanche, toujours la couleur de la résurrection. Et on pense ici à la vision de l'Apocalypse, la vision des élus. Tout cela, d'où viennent-ils? Où vont-ils? Ils viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. C'était ce qu'on a eu dimanche. L'ont lavé dans le sang de l'agneau. C'est cela, c'est la Vierge Marie, la première, a revêtu le Christ par la grâce qu'il lui faut lui donner de son immaculée conception, qui est le fruit finalement anticipé de la croix. Elle est toute vêtue de blanche, et son immaculée conception est le fruit du cœur de Jésus. Au jardin d'Éden, Adam et Ève ont été dépouillés du vêtement de gloire. Ils ont eu un vêtement provisoire qui préfigurait le vêtement de gloire. Mais pour cela, le Fils a dû se dépouiller. Il s'est vidé de sa substance, nous est-il dit dans les Saintes Écritures. Lui qui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais qu'il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Donc, la première, Marie a revêtu son Fils. La première, elle a revêtu, elle est plongée dans le mystère de la mort-résurrection de son Fils. Je tressaille de joie dans le Seigneur en Isaïe 61. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a enveloppé dans le vêtement de l'innocence et revêtu des vêtements du salut comme une épouse parée pour son époux. L'Immaculée Conception a été revêtue du vêtement de gloire et ses enfants en sont revêtus à sa suite. La Vierge Marie dit aussi, c'est ici que je serai honorée. Ici, appel voisin bien sûr, mais bien au-delà de cela. Ici, c'est-à-dire dans le cœur de ceux qui s'ouvrent au cœur de son Fils. Elle aime la dévotion au Sacré-Cœur, elle le dit, j'aime cette dévotion. Donc à chaque fois que nous nous tournons vers le cœur de Jésus, que nous nous confions au cœur de Jésus, que nous faisons tout par le cœur de Jésus, eh bien, elle est honorée. C'est ici que je serai honorée. Dixième apparition, dimanche 10 septembre, fête du Saint-Nom de Marie. Le récit d'Estelle. Le 10 septembre, la Sainte Vierge vint à peu près à la même heure. Elle ne fit que passer en disant, qu'il prie, je leur en donne l'exemple. Et en disant cela, elle a joint les mains, puis elle a disparu. Le coup des vêpres sonnait. Brièveté du message et brièveté de l'apparition. Il s'agit ici de ne pas se perdre en palabres, mais de prier. La Vierge nous a donné l'exemple. Elle ne nous dit pas comme j'ai prié autrefois, mais comme je prie. Toute la vie de prière, toute la vie de Marie a été une vie de prière. Et elle continue à prier pour nous. Maintenant, elle prie. Et elle est le modèle de la prière. Ne reste que peu de temps, tout est dit, il faut prier. Et elle disparaît au moment où les vêpres sonnent. On est un dimanche. Et c'est au moment où les vêpres sonnent. Pourquoi? Parce qu'elle invite finalement ses enfants à aller à la prière de l'Église. La vie de Marie a été rythmée par les temps liturgiques. Donc ce n'est pas un hasard si elle part au moment des vêpres. Parce que toute prière, elle nous le rappelle ici, possède une dimension communautaire. Même la prière personnelle s'inscrit, si elle est authentique, dans la grande prière de l'Église où l'assemblée céleste et terrestre se rejoignent en une unique liturgie. Le fait que l'apparition ait aussi lieu un dimanche montre la finalité de toute vie. La finalité, c'est le repos en Dieu qui exige auparavant le passage par le mystère pascal. 11e apparition, vendredi 15 septembre, vers 14h45. Le 15 septembre, avec la permission de ma maîtresse, j'ai été priée dans ma chambre. Quel bonheur! Que ne puis-je y passer ma vie? J'y suis allée deux fois, et ce n'est que la deuxième fois que la Sainte Vierge est venue. Il était à peu près 3h moins le quart. Elle était comme toujours, les bras étendus. La pluie tombait de ses mains. Elle resta longtemps sans rien dire avant de me parler. Elle tourna ses yeux de tous côtés. Puis, après, elle me dit des choses particulières. Elle me dit « Je te tiendrai compte des efforts que tu as faits pour avoir le calme. Ce n'est pas seulement pour toi que je le dis, mais aussi pour la France et pour l'Église. Dans l'Église, il n'y a pas ce calme que je désire. » Elle soupira, elle remua la tête et dit « Il n'y a pas ce calme. » Elle ne me dit pas ce qu'il y avait, mais j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelques discordes. Puis elle reprit lentement « Qu'ils prient, qu'ils aient confiance en moi. » Ensuite, la Sainte Vierge me dit tristement, elle ne pleurait pas, mais elle me dit « Et la France, que n'ai-je fait pour elle? Que d'avertissements !» Et encore, elle refuse d'entendre. « Je ne peux plus retenir mon fils. » Elle paraissait émue en disant « La France souffrira. » Et elle appuya sur ses paroles. Puis elle s'arrêta encore et reprit « Courage et confiance. » Alors à cet instant, je pensais en mon cœur « Si je dis ceci, on ne voudra peut-être pas me croire. » La Sainte Vierge m'a comprise car elle m'a dit j'ai payé d'avance. Tant pis pour ceux qui ne te croiront pas. Plus tard, ils reconnaîtront la vérité de mes paroles. Puis, tout doucement, elle partit. Ô ma bonne mère, il est encore temps. Vos paroles encourageantes feront croître votre amour, notre amour et notre confiance en vous. Vous êtes toute miséricordieuse et maîtresse de votre fils. Vous m'avez dit tous les trésors de mon fils sont ouverts. S'il lui plaît encore de nous éprouver et de nous punir comme nous le méritons, du moins, nous aurons la consolation de pouvoir puiser à la source inaltérable de son cœur. Cette dévotion que vous aimez, j'en parlerai, ma bonne mère, autant que je le pourrai. Je ne suis rien, mais vous permettrez que mon beau vouloir de vous plaire serve à votre gloire. L'apparition a lieu un vendredi, un peu avant 15 heures, donc la mort du Christ. Et normalement, c'est un jour de travail. Donc, si Estelle est allée dans sa chambre, c'est parce qu'elle a demandé la permission. Donc, elle l'a obtenue. Et là, dans sa chambre, Estelle dit qu'elle voudrait passer sa vie. Dans sa chambre, elle est comme au Tabor. La Vierge lui apparaît dans son attitude habituelle. C'est-à-dire, elle a les bras étendus, la pluie tombe de ses mains, la pluie abondante, les grâces reçues du cœur du Christ. Et elle continue à initier sa fille à la profondeur du silence contemplatif. Et elle l'encourage à faire tous ses efforts pour être calme. Là, pour la première fois, la Vierge Marie cite la France et l'Église. Il est vrai qu'en cette fin du 19e siècle, la France et l'Église ont eu à subir beaucoup de combats, de violents combats. Pour la France, une des conséquences de la Révolution française fruit des philosophies si mal nommées des Lumières. Et la France et l'Église se sont éloignées de la grâce de leur baptême. La France, fille aînée de l'Église, a introduit le venin de ces idéologies qui, progressivement, ont conduit au matérialisme athée, au laïcisme, au modernisme. Et pourtant, que d'avertissement la Vierge a-t-elle donné à la France? Et on pense à la Salette. 30 ans plus tôt, à la Salette, la Vierge dit « Je ne peux plus retenir le bras de mon fils. » Ici, appel voisin, « Je ne peux plus retenir mon fils. » Elle dit la même chose. Est-ce que pourtant la situation de la France et de l'Église sont désespérées? Bien sûr que non. La Vierge Marie met toujours ses enfants sur la voie de l'espérance. Dieu est plus fort que le mal et que la mort. Et du reste, Estelle est une vivante expression de la grâce mariale. Elle est bien française, elle a bien le tempérament du français avec tous les défauts qu'on peut trouver aux Français. Et elle est bien aussi fille de l'Église. Et pourtant, Estelle, eh bien, elle représente vraiment ces apôtres de dernier temps dont parle Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, qui sont formés à l'école de la Vierge Marie. Et c'est plein d'espérance, puisque la Vierge nous a dit qu'elle allait toucher même les cœurs les plus endurcis. Au terme, la victoire du Christ et de la Vierge, la victoire est sûre, elle est déjà obtenue au pied de la croix. Et Marie dit cette phrase qui laisse à réfléchir. J'ai payé d'avance. Et là, très nettement, jusqu'ici, elle a montré vraiment son rôle de médiatrice. Ici, elle montre qu'elle est co-rédemptrice. L'Église n'a pas encore affirmé le dogme de Marie co-rédemptrice, mais on peut espérer que ça ne saurait tarder. Parce qu'elle l'indique nettement ici. J'ai payé d'avance. Bien sûr, sur le plan théologique, on peut dire, mais il n'y a qu'un seul rédempteur. Effectivement, il n'y a qu'un seul rédempteur. Seul le Christ, Dieu est rédempteur, parce que l'homme ne peut pas sauver l'homme. Il n'y a que Dieu qui peut sauver l'homme. Le Christ est l'unique rédempteur. Mais Dieu est rentré en mariage avec l'humanité. Dans un mariage, il faut deux oui. Et le oui de l'humanité a été contenu dans le oui de Marie à l'Annonciation et qui se poursuivit aussi à la croix. Donc Marie a bien payé d'avance. Elle a payé le prix du sang. C'est bien son sang, le sang de son fils qu'elle offre. C'est bien la chair de sa chair que Marie offre. Au terme, les plus endurcis comprendront. La Vierge le dit ici. La vérité des paroles sera, les paroles de Marie sera comprise. Bien sûr, par la reconnaissance officielle des apparitions appel voisin, mais cette phrase va bien au-delà, pour rejoindre tous les hommes qui accueilleront, en fin de compte, le message d'amour de l'Immaculée Conception. Ils reconnaîtront la vérité, et la vérité, c'est le Christ. Et au terme de l'histoire, saint Paul nous dit « Dieu sera tout en tous ». La victoire du Christ est aussi celle de sa mère, l'unique victoire des cœurs unis. 12e apparition, mercredi 1er novembre à 12h30 après la messe. Vous ne m'avez pas parlé, ma bonne mère. J'écrirai cependant pour votre gloire la visite que vous avez voulu me faire aujourd'hui. Depuis une quinzaine de jours, malgré tous mes efforts pour m'empêcher de penser à revoir la Sainte Vierge, je ne pouvais faire autrement. Et justement, au moment où je faisais tout ce que je pouvais pour ne plus y penser, mon cœur sautait dans ma poitrine dans l'espoir de la revoir. Enfin, aujourd'hui, 1er novembre, je revis cette bonne mère du ciel. Elle était comme toujours, les bras étendus, et portait le scapulaire qu'elle me fit voir le 9 septembre. En arrivant, comme toujours, elle fixait quelque chose que je ne pouvais pas voir. Puis, elle regarda de tous côtés. Elle ne m'a rien dit. Puis elle m'a regardée avec beaucoup de bonté et elle partit. Oh, si je pouvais vous suivre, ma bonne mère. C'est toujours le premier sentiment que j'ai lorsque je vois la Sainte Vierge. Sitôt après le départ de cette bonne mère du ciel, quand je revoyais tout ce qui était autour de moi dans ma chambre, comme c'était sombre, Quelle tristesse j'ai éprouvée. Mon Dieu, que voulez-vous de moi? Je suis prête, faites tout ce qu'il vous plaira. Et pour votre très sainte mère, elle qui est si bonne et si miséricordieuse, que veut-elle de moi, pauvre créature? Que puis-je faire? Parlez, ô très sainte mère. Je ferai tout ce qui dépendra de moi pour votre gloire. C'est l'unique apparition des 15 où la Vierge ne dira rien. Mais on est à la fête de la Toussaint. Et Estelle est plongée dans un profond silence contemplatif où elle goûte la joie du ciel. Ce n'est pas encore la vision béatifique. Une apparition n'est pas la vision béatifique. La vision béatifique, c'est pour après. C'est au ciel. Mais elle goûte déjà quelque chose de la vie du ciel. Et cette apparition nous rappelle que nous sommes faits pour le ciel. Souvent, nous, englués dans les choses matérielles, ne nous rendons pas compte. Nous faisons comme si toute la vie allait durer éternellement sur la terre, même si on sait qu'on doit mourir. Mais finalement, on n'arrive pas à y croire. Nous sommes faits pour le ciel. Voilà ce qu'elle nous rappelle ici. Et la Vierge va fixer trois points. Un point qu'Estelle ne peut pas voir. Roi, n'en pas douter, il doit s'agir du Christ à la droite du Père, avec tous les saints. Le deuxième, c'est sur l'environnement. Elle tourne ses yeux tout autour. Elle regarde tout autour d'elle. C'est le regard souverain de la Reine du Ciel. À l'empire de qui, comme dit Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, tout est soumis. Et puis, sur Estelle. Et Estelle est très triste quand la Vierge disparaît, tout lui semble sombre. Elle a goûté la joie du ciel, la vie sur la terre est sombre. Et pourtant, contrairement à la deuxième apparition où elle avait dit « Oh ma bonne mère, si vous pouviez m'emmener », cette fois-ci, non. Elle est complètement soumise à la volonté de Dieu. Elle veut faire tous publier la gloire de Dieu et en restant sur la terre. Et Estelle sait que l'aide de la Vierge Marie ne lui fera jamais défaut. 13e apparition, dimanche 5 novembre. Dimanche 5 novembre, vers 2h30, je suis allée dans ma chambre pour dire mon chapelet. Et lorsque je l'eus fini, je vis la très sainte Vierge. Elle était belle, comme toujours. En la voyant, je pensais que j'étais bien indigne de ses grâces, que d'autres auraient mérité bien plus que moi ses faveurs et pouvaient davantage publier sa gloire. Alors elle me regarda et sourit en me disant « Je t'ai choisi. » Oh, que j'étais heureuse! Quelle bonté et quelle douceur, quelle miséricorde! Elle portait son scapulaire, comme il était beau. Elle s'arrêta un moment et reprit toujours en souriant « Je choisis les petits et les faibles pour ma gloire. » Elle s'arrêta encore et me dit « Courage, le temps de tes épreuves va commencer. » Puis elle croisa les mains sur sa poitrine et elle partit. « Tout pour vous, ma bonne mère. » Estelle ne se fait plus aucune illusion sur elle-même. Elle connaît sa pauvreté, sa fragilité. Et elle est vraiment imprégnée des sentiments de la Vierge Marie. Elle ne fait plus qu'un avec le cœur de sa mère. Dans son cœur, c'est finalement le Magnificat qui rejaillit. Comme elle était heureuse, comme quand la Vierge lui a dit, alors qu'elle se sent indigne, « Je t'ai choisi. » C'est toute la miséricorde de Dieu, la miséricorde de la Vierge Marie qu'elle éprouve ici. Il s'est penché sur la pauvreté de sa servante. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Cela, elle le vit vraiment dans son cœur, Estelle. Et on pense à la parole de Jésus, « Je te bénis, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout-petits. Je choisis les petits et les faibles pour ma gloire, dit la Vierge Marie. » On pense aussi à la phrase de saint Paul, ce qu'il y a de faible dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages, afin qu'aucune créature n'aille se glorifier devant Dieu. Tout pour vous, ma bonne mère. 14e apparition, samedi 11 novembre, 16h15. Hier samedi, je revis la Sainte Vierge. Je suis allée dans ma chambre pour y prier, me sentant poussée par je ne sais quoi depuis plusieurs jours. J'avais même le désir de partir dès le matin pour Pellevoisin afin d'avoir plus de temps. Mais Dieu avait ses vues. Je ne puis partir que dans l'après-midi. Et je suis allée dans ma chambre vers 4h moins 10. J'ai fini de dire mon chapelet et dit un « Souvenez-vous » lorsque la Sainte Vierge est venue. Elle était comme les autres fois, les mains étendues, et avait son scapulaire. Comme il est beau, comme il ressort sur sa poitrine. En arrivant, comme toujours, elle resta un bon moment sans rien dire. Puis elle me regarda et me dit quelque chose pour moi. Puis après, elle me dit « Tu n'as pas perdu ton temps aujourd'hui. Tu as travaillé pour moi. » J'avais fait un scapulaire. Elle était souriante, puis elle ajouta « Il faut en faire beaucoup d'autres. » Elle s'arrêta assez longtemps. Et après, elle devint un peu triste et me dit « Courage. » Et puis elle est partie en croisant ses mains. Elle cacha entièrement son scapulaire. « Ayez pitié de moi, bonne mère, je suis votre enfant. » Estelle a ressenti depuis plusieurs jours l'appel à se rendre dans sa chambre. Comme toujours, elle est avertie intérieurement. Donc elle avait le désir d'aller prier, elle voulait même prier dès le matin. Dès le samedi matin, sachant que les apparitions de la Vierge ont toujours eu lieu jusqu'ici, dans l'après-midi ou le soir. C'est un détail important pour nous. Ça veut dire que les visites du ciel doivent se préparer. Chaque jour, le Christ s'offre partout dans le monde, dans la Sainte Eucharistie. Et la Sainte Eucharistie, c'est encore plus grand qu'une apparition mariale. Combien il faut préparer notre cœur. Et Estelle n'a pas pu prier autant qu'elle l'a voulu. Et elle l'a dit, Dieu avait ses vues. Estelle était habituellement sous le regard de la Vierge Marie et de Dieu. Elle était presque continuellement en état de prière. Et donc Dieu a permis qu'Estelle continue les activités de son devoir d'État pendant ce temps-là. Et cela montre que chaque instant est sanctifié, quelle que soit l'activité, quand l'activité est ordonnée sous le regard de Dieu et au service de Dieu. Au service de Dieu, ce n'est pas forcément en faisant des œuvres religieuses, mais tout orienté vers l'amour de Dieu. Rendre amour pour amour, comme il est dit dans la garde d'honneur. Et là, on est tout à fait en pensant à ça, je pensais vraiment à la garde d'honneur. C'est-à-dire que dans les occupations quotidiennes, quoi qu'on fasse, au moment où on le fait, à l'heure que l'on a choisie, on offre tout en pensant à Jésus qui est présent au tabernacle. Tu n'as pas perdu ton temps aujourd'hui, tu as travaillé pour moi. Estelle pensait avoir perdu son temps parce qu'elle n'avait pas eu le temps de se préparer suffisamment. Or, elle a fait son devoir d'État, elle a fait un scapulaire. C'était le début explicite de sa mission. Mais quand la Vierge Marie lui dit « il faut en faire beaucoup d'autres », bien sûr, il faut jouer aussi sur les deux plans. C'est matériellement en faire beaucoup d'autres. Mais c'est surtout, sois tellement contemplatif du cœur de mon fils que tu deviens semblable à ce cœur et que tu attires d'autres cœurs à moi. Tu attires d'autres cœurs à la dévotion au cœur uni de Jésus-Marie. La Vierge Marie ne lui cache pas les épreuves. Elle croise les mains, elle porte sa fille qui va subir des épreuves, des persécutions dans la diffusion de ce message. Et elle croise les mains, elle cache le scapulaire pour lui montrer, en croisant les mains sur sa poitrine, les épreuves qu'elle va traverser, bien sûr, dans elle va bientôt ne plus voir la Vierge Marie, mais aussi les épreuves de tout disciple. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Le Christ a souffert, les disciples souffrent. Tout disciple accompli sera comme son maître. Là, elle lui annonce vraiment la nuit spirituelle que va traverser Estelle. Elle cache le scapulaire, mais le cœur de Dieu est toujours présent, même quand on ne voit rien, quand on ne sent rien. 15e apparition, vendredi 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, vers 12 heures après la messe. Il y a quelques heures que je suis revenue de Pellevoisin et je ne suis pas encore remise de mon émotion. J'ai revu la Sainte Vierge et je ne la reverrai plus sur la terre. C'est elle qui me l'a dit. Personne ne pourrait comprendre ce que j'éprouve. Pourtant, je suis prête à tout sacrifier pour la gloire de celle qui m'a comblée de grâce. Ses promesses me consoleront. Elle sera près de moi. Je ne la verrai pas, mais elle parlera à mon cœur. Ô ma bonne mère, faites que je sois docile à votre voix et que jamais je ne m'écarte du chemin que vous m'avez tracé. Vous m'avez dit, je t'aiderai, je compte sur vous, vous ne m'abandonnerez pas. Je vais donc en toute sûreté pour votre gloire écrire votre dernière visite. Aujourd'hui, après la grand-messe, j'ai revu cette douce mère. Elle était plus belle que jamais. Il y avait autour d'elle sa guirlande de roses comme au mois de juillet. En arrivant, tout d'abord, elle resta sans rien dire, comme les fois précédentes. Puis elle me dit, « Ma fille, rappelle-toi mes paroles. » À ce moment, je les revis toutes depuis le mois de février, et plus particulièrement celle-ci. « Tu sais bien que tu es ma fille. Je suis toute miséricordieuse et maîtresse de mon fils. » Ses plaintes, quand elle m'a dit, ce qui m'afflige le plus, c'est le manque de respect qu'on a pour mon fils dans la Sainte Communion et l'attitude de prière qu'on prend alors que l'esprit est occupé d'autre chose. Puis les paroles du mois de juillet. Son cœur a tant d'amour pour le mien qu'il ne peut refuser mes demandes. Par moi, il touchera les cœurs les plus endurcis. Je suis venue particulièrement pour la conversion des pécheurs. Puis vinrent les paroles du mois de septembre. Les trésors de mon fils sont ouverts, qu'il prie. Et qu'en montrant son scapulaire, elle dit « J'aime cette dévotion ». Et ces paroles remarquables, « C'est ici que je serai honorée ». Je vise encore ces recommandations pour l'Église et pour la France. Je recommande le calme, non seulement pour toi, mais aussi pour l'Église et pour la France. Vinrent ces paroles du mois de novembre. Je t'ai choisi. Je choisis les petits et les faibles pour ma gloire. Parmi ces paroles, j'en revis encore beaucoup d'autres. J'en garderai le secret. Tout cela passa si vite. La Sainte Vierge me regardait encore. Et elle me dit, répète-les souvent, qu'elle te fortifie et te console dans tes épreuves. Tu ne me reverras plus. Alors à ce moment-là, je me suis criée, mais que vais-je devenir sans vous, ma bonne mère? Elle me dit, je serai invisiblement près de toi. Je voyais à cet instant, dans le lointain, une foule de gens de toutes sortes à gauche. Ils me menaçaient, ils me faisaient de reproches. J'avais un peu peur. La Sainte Vierge souriait, elle me dit, « Tu n'as rien à craindre de ceci. Je t'ai choisi pour publier ma gloire et répandre cette dévotion. » La Sainte Vierge alors tenait son scapulaire entre les deux mains. Elle était si encourageante que je lui dis, « Ma bonne mère, Si vous vouliez me donner ce scapulaire. » Elle parut ne pas m'entendre. Mais elle me dit, en souriant, « Lève-toi et baise-le. » Oh, alors je me suis levée rapidement, la Sainte Vierge se pencha vers moi et je l'ai baisée. Ce fut pour moi un moment de délice. Puis la Sainte Vierge se releva et elle me dit, en parlant de son scapulaire, « Tu iras toi-même trouver le prélat et tu lui présenteras le modèle que tu as fait. Dis-lui qu'il t'aide de tout son pouvoir et que rien ne me fera plus plaisir que de voir cette livrée sur mes enfants et qu'ils s'appliqueront à réparer les outrages que mon fils reçoit dans le sacrement de son amour. Voilà les grâces que je répands sur ceux qui le porteront avec confiance et répandront cette dévotion. » En disant ceci, la Sainte Vierge étendit ses mains. Il en sortit une pluie abondante et dans chacune de ses gouttes, il me semblait voir les grâces écrites telles que piété, salut, confiance, conversion, santé, en un mot, toutes sortes de grâces plus ou moins fortes. Puis la Sainte Vierge ajouta, « Ces grâces sont de mon fils. Je les prends dans son cœur. Il ne peut me refuser. » Alors je dis, « Mais ma bonne mère, que faudra-t-il mettre de l'autre côté du scapulaire ?» La Sainte Vierge me répondit, « Je le réserve pour moi. Tu soumettras ta pensée et l'Église décidera. » Je sentais que cette bonne mère allait me quitter et j'avais du chagrin. Elle s'élevait doucement. Elle me regardait toujours, puis elle me dit, « Courage. S'il ne pouvait accorder tes demandes, elle parlait du prélat, et qu'il s'offre des difficultés, tu irais plus loin. Ne crains rien, je t'aiderai. » Elle fit le demi-tour de ma chambre et disparut à peu près où était mon lit. Mon Dieu, que j'avais de la peine. Merci, ma bonne mère. Je ne ferai rien sans vous. Estelle Faguette. Donc les apparitions s'achèvent, et c'est important, en la fête de l'Immaculée Conception. Toujours le lien entre Lourdes et Pellevoisin. L'Immaculée Conception forme l'achèvement du cycle des apparitions à Pellevoisin. L'Immaculée Conception présente la Jérusalem céleste, c'est-à-dire l'Église au terme de son cheminement. Ce que Marie fut au commencement, l'Église le sera au terme, immaculée dans l'amour. Estelle et Marie ont la même remarque. À la dernière apparition, Estelle et Bernadette font la même remarque. Bernadette, à la dernière apparition, le 16 juillet, Notre-Dame du Mont-Carmel, dernière apparition à Lourdes, la Vierge paraît belle. Elle est très belle. Jamais elle n'avait vu la Vierge aussi belle. Et ici, à Pellevoisin, c'est la même chose. Jamais la Vierge Marie ne lui a apparu plus belle qu'en cette dernière apparition, parce que c'est l'achèvement de la vie spirituelle parvenue à son terme. Estelle est encore en chemin, et à mesure de sa croissance spirituelle, la beauté de la Vierge lui apparaît davantage. On comprend qu'elle voudrait être amenée au ciel, mais elle dit qu'elle est maintenant prête à tout sacrifier pour la gloire de celle qui l'a comblée de grâce. Son âme est remplie de reconnaissance et de douleur. Elle veut tout faire pour la Vierge Marie. Et Marie lui donne alors de vivre une anamnèse, c'est-à-dire de rendre présentes et actuelles les paroles qu'elle lui a données. Parce que ces paroles, ce ne sont pas de simples paroles humaines, ce sont vraiment des paroles célestes. Estelle dit, je vis toutes ces paroles. L'Esprit Saint vous rappellera toutes choses, tout ce que je vous ai dit en Jean 14, 26. Et là, elle les revoit toutes comme une sorte de flash, les voit intérieurement. Comme en Saint Jean, dans la première, au chapitre 1er de l'Apocalypse, il se retourne pour voir la voix. C'est curieux, normalement une voix, ça se fait entendre. Voir la voix ici, la parole est adéquate à la personne de la Vierge. La parole du Verbe est adéquate à la personne du Verbe. La parole se donne à voir dans le Verbe, la parole fait chair. Et parce que ces paroles sont des paroles du ciel, ce sont des paroles puissantes. Répète-les souvent, qu'elles te fortifient et te consolent. Qu'elles trouvent ainsi consolation dans l'épreuve. Et je crois que c'est à chacun de nous que la très sainte Vierge Marie donne ce même conseil. Estelle est maintenant comme les autres, Estelle devra vivre de foi. Et justement, la foi se nourrit de la parole agissante de Dieu dans les puissances de l'âme. Le reste, elle est effrayée parce que elle ne va plus voir la Vierge et elle se dit, mais comment je vais faire? Estelle, c'est vraiment le cri. Et Estelle dit, j'ai crié, la Vierge Marie. Elle le dit dans son récit. Elle a crié, que vais-je faire? Que vais-je devenir sans vous? C'est vraiment le cri du pauvre. Elle représente vraiment ces anawim, ces pauvres selon le cœur de Dieu. Elle sait qu'elle ne peut rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Elle sait qu'elle ne peut rien faire sans Dieu, sans la Vierge Marie. L'orgueilleux lui croit qu'il est capable d'agir par lui-même. Et la très sainte Vierge le réconforte, je serai invisiblement près de toi. Et cette assurance lui donne la force de vaincre tous les obstacles. Alors tous les obstacles, elle les voit avec cette foule à gauche, cette foule qui la menace. Mais la Vierge Marie sourit. Tu n'as rien à craindre de ceci. C'est aussi encourageant lorsque nous sommes en bout à la contradiction, même quand on peut parler quelquefois de Jésus, qu'on n'ait pas compris. Tu n'as rien à craindre de ceci. Marie, c'est vraiment la Vierge forte. Elle est forte comme une armée rangée en bataille, est-il dit dans le Cantique des Cantiques. Et la très sainte Vierge Marie tient son scapulaire des deux mains. Elle présente vraiment le scapulaire, la dévotion au cœur de Jésus. Et alors, en voyant cela, Estelle lui demande le scapulaire. Et la Vierge semble ne pas entendre parce que unique est la manière dont le Fils et la Mère sont unis. Elle aime son Fils d'une manière unique et le Fils d'une manière unique aussi. Marie a revêtu le Christ de manière plénière et parfaite en raison de son immaculée conception et de sa maternité divine. Mais tout enfant en elle est appelé à vivre de ce même mystère. Parce qu'au terme, quand le Christ paraîtra, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc la grâce de l'Immaculée Conception rejaillit par elle sur tous ses élus. Et Marie nous donne le moyen pour aller vers ce terme. Lui dit, lève-toi. Alors, lève-toi, c'est apprendre bien sûr au sens physique, mais c'est aussi au sens spirituel. La Vierge demande de sortir de l'endormissement spirituel. Elle nous demande de sortir de notre médiocrité et de prendre la décision, comme Estelle l'a fait, de vraiment le connaître et de l'aimer. Et Estelle embrasse le scapulaire et dit, c'était un moment de délice. Et on pense là au Cantique des Cantiques. Le bien-aimé est délicieux dans le Cantique des Cantiques. Et l'épouse bien-aimée par excellence, bien sûr, c'est la Vierge Marie. Mais la Vierge Marie entraîne derrière elle les âmes à le suivre sur ce chemin de l'union intime avec le Christ. À être épouse du Christ. Toutes les âmes sont appelées à être âme épouse. Entraîne-moi sur tes pas. Nous courrons. Le roi m'a introduite dans ses appartements. Tu seras notre joie et notre allégresse. Nous célébrerons tes amours plus délicieuses que le vin, comme on a raison de t'aimer. C'est le Cantique 1-4. Estelle a goûté que le bien-aimé est délicieux. Et Estelle est appelée, à la suite de la Vierge Marie, à entraîner avec elle d'autres âmes pour qu'ils vivent aussi de ce mystère des noces. Marie donne la mission à Estelle de transmettre cette dévotion au divin cœur par le port du scapulaire. Et elle affirme même que rien ne lui fera plus plaisir que de voir ce scapulaire porté par ses enfants. Mais il ne s'agit pas du tout d'un gris-gris. Elle l'a dit, ceux qu'ils porteront avec confiance, qui aideront Estelle à propager cette dévotion. Il s'agit vraiment de consoler le cœur de Jésus, de réparer les outrages, en particulier les outrages que son divin fils reçoit dans le sacrement de son amour, dit la Vierge Marie. Alors, qu'est-ce qui a été marqué de l'autre côté du scapulaire? Puisque la Vierge a dit, je le réserve pour moi, elle ne lui dit pas sur le moment, pour l'habituer encore à vivre dans la confiance. Mais on voit l'union entre la fille et la mère, Parce que dis-tu, soumettra ta pensée. Donc soumettre la pensée, c'est la pensée de la Vierge Marie. Elle ne fait plus qu'un vraiment avec le cœur de la Vierge Marie. Alors voilà un petit peu ce qui s'est produit. Voilà ce qui sera mis de l'autre côté du scapulaire, comme Estelle nous rapporte dans l'entretien d'Estelle avec Monseigneur de la Tour d'Auvergne. Alors Monseigneur, voici la réponse de la Sainte Vierge. Je le réserve pour moi, tu soumettras ta pensée et l'Église décidera. Bien, dit Monseigneur, alors mon enfant, dites. Et j'ai répondu, Monseigneur, je me soumets d'avance à votre décision. J'ai ajouté, puisque la Sainte Vierge seule réserve, Monseigneur, on pourrait peut-être mettre l'image de la dernière visite de la Sainte Vierge. Alors Monseigneur a répondu très majestueusement, mais oui, avec le scapulaire révélé par la Sainte Vierge elle-même, la guirlande de roses et son titre de Mère toute miséricordieuse. Voilà pourquoi le Sacré-Cœur a gardé sa grandeur, car Monseigneur dit aussi, il faudra lui garder sa grandeur, car c'est le scapulaire unique du Sacré-Cœur. Il faut lui conserver son cachet particulier. Donc sur l'autre côté, on a le cœur de Jésus, la guirlande de roses, enfin comme la dernière vision, la dernière apparition, pardon, où la guirlande de roses était présente, la guirlande de roses qui nous renvoie à l'importance du Saint-Rosaire. Et à la fin de l'apparition, eh bien, quand Marie s'apprête à quitter sa fille, bien sûr, elle éprouve beaucoup de chagrin, mais elle s'élève progressivement, un petit peu comme Jésus à l'ascension. Alors elle a fait passer vraiment Estelle par la grâce du mystère pascal. Maintenant, elle lui fait vivre l'ascension. À l'ascension, il y a un ange qui est venu réconforter les disciples, courage, dit la Vierge Marie. Et puis, et maintenant, elle a à vivre la Pentecôte, c'est-à-dire à transmettre tout ce qu'elle a reçu du ciel. Et dans ses épreuves, elle dit combien j'avais de peine, combien j'avais de chagrin, mais elle n'est pas repliée sur elle-même, elle n'est qu'action de grâce. Elle dit merci pour toutes vos faveurs. Et sur ces derniers mots d'Estelle que je vais finir, merci pour toutes vos faveurs, ma bonne mère. Je ne ferai rien sans vous.
Dépasser un peu le temps, mais c'était prévu parce que il y avait beaucoup de, comme le récit est très long. Voilà, ceux qui doivent partir, hein, n'hésitez pas à partir. Et on va donc prier le chapelet.